Re-bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pino. Merci d'être là. À chaque fois, je vous le dis, ça me touche que vous soyez sur Patreon, que vous nous écoutez sur YouTube, sur les plateformes en audio, en vidéo. Merci de nous suivre. Hey, je l'annonce là, tu sais, à chaque fois, là, je me plug toujours un petit peu. GuillaumePinot.com, dépêchez-vous. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter l'épisode, mais en ce moment, on est à la fin janvier. Il reste 28 shows de la tournée des tours. Après ça, on entame les rodages de la deuxième tournée. J'ai hâte de vous voir, que ce soit partout au Québec, que ce soit en rodage, que ce soit le spectacle actuel. Je suis content que vous soyez là. Merci. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureux. L'invité que je reçois, c'est une personne que j'affectionne beaucoup, qui m'a toujours été de bons conseils, qui m'a fait travailler énormément ma diction. Si vous trouvez qu'il y a encore du chemin à faire, c'est possible. Je n'ai pas toujours été assidu, mais comme j'ai dit, toujours de bons conseils. Puis c'est une source intarissable de connaissances. Très heureux de m'entretenir avec lui. Mesdames, messieurs, Joseph Saint-Gelais. Ah, oh, Joseph Saint-Gelais, comment ça va?
Ça va? Ben oui, merci de m'avoir invité.
Ben, je suis très heureux que tu sois là. Puis Joseph, je m'étais écrit aussi pour l'intro. Tu es la première personne qui a eu des bons mots pour moi au niveau humoristique. C'est très important pour moi de le dire, puis j'avais oublié de le mentionner. La première question que je pose à tout le monde, bien, premièrement, comment ça va? Ça va bien, Joseph?
Oui, ça va bien. Bon. Je suis encore en vie, c'est déjà pas mal. Hein?
Ça, c'est déjà très bon. On est tous heureux de ça. Ouais. Et la première question que je demande toujours aux gens, c'est quel est notre lien de connaissance? Est-ce que tu te souviens la première fois qu'on s'est croisés?
Ben, c'est-à-dire la première fois qu'on s'est croisés, où je t'ai vu, c'était à... en route vers mon premier gala, c'est ça.
Exactement.
Je te fais des très beaux compliments.
Exactement. Et c'était en 2011, c'était le En route 2011. Ouais. Tu étais juge avec Sylvie Potvin et Jacques Chevalier. Tout le monde avait été gentil à mon égard, puis, mais tu m'avais vraiment dit des bons mots. Je me rappelle encore où tu avais dit « Une de tes forces, c'est que tu es sympathique. À partir de là, tu peux aller chercher le monde. » Puis ça, j'ai essayé de retenir. Puis j'ai essayé le plus possible de rester sympathique. Puis même encore aujourd'hui... Mon équipe de production me dit ça, n'oublie pas de rester le plus sympathique possible. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Fait que oui, c'est en route devant mon premier gala. Tu as été juge combien d'années en route?
2 ans.
C'était 2010-2011?
J'imagine.
Joseph, et puis là, je vais me forcer à dire le balado, parce que je sais que pour toi, la langue française, c'est bien important. Donc, dans mon balado, Joseph, j'utilise les questions de Bernard Pivot, ainsi que quelques questions de Guillaume Pinault. Alors, la première question est de Bernard Pivot. Quel est ton mot préféré?
Oh, c'est une question. C'est l'Everest à gravir pour arriver à trouver le mot. Moi, je dirais curiosité.
Pour quelle raison, curiosité?
Parce que ça ouvre toutes les portes.
Oui. Bon choix.
Alors, moi, je suis curieux depuis que je suis tout petit. Alors, c'est ce qui fait que je me suis intéressé à tout, autant à l'architecture qu'à l'opéra, qu'à la peinture, qu'à. Voilà, c'est une question d'ouverture. Ça te force à aller voir partout et te faire une idée avant qu'on t'inculque obligatoirement des idées.
Oui, puis c'est vrai. En plus, Joseph, je t'ai présenté comme ami, collègue, source de connaissances, mais tu sais, en fait, metteur en scène. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, parce que je lis metteur en scène puis je lis scénographe, ce qui n'est pas du tout la même chose, ou ça entrecroise, c'est...
Non, c'est assez, c'est pas rare, mais c'est assez, c'est deux métiers complètement différents. Mais les deux sont attachés ensemble parce que le scénographe conçoit à partir des demandes du metteur en scène une scénographie, c'est-à-dire un décor.
Okay.
Après ça, il y a le concepteur d'éclairage qui lui aussi ajoute sa dimension de lumière sur des murs, des rochers, n'importe quoi, des rideaux, peu importe, pour les donner, pour que ça soit plus vivant, plus beau. Et la même chose pour styliste en humour et conception des costumes au théâtre, où tous les costumes de chaque personnage, le concepteur ou la conceptrice doit produire une maquette que le metteur en scène va accepter ou non, ou avec des changements, etc., etc. Alors, c'est très complexe. Moi, je me dis, scénographe, parce que j'ai quand même conçu pas mal de décors, sûrement une bonne trentaine, quarantaine. C'est ça, voilà.
Parce que c'est ça, là, tu sais, scénographe, mise en scène, en musique, en humour, en théâtre. Tu sais, vraiment, l'éventail est vaste. Là. Puis c'est vrai, j'ai fait une présentation en faisant, ben, on se connaît bien, nous, mais tu sais, c'est bien de le dire aux gens parce que justement, quand tu dis curiosité, on dirait que là, ça fonctionne avec tout l'éventail des choses que tu connais.
C'est ça. Bon. Et ça s'ajoute, ça fait comprendre encore plus quand je dis curiosité. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois ou les premières fois, tu vois un ensemble de la personne, mais tu ne vois pas l'intérieur de la personne. Tu ne vois pas ce qu'elle a fait, ce qu'elle pense, ses opinions politiques. Et si tu es curieux, de plus en plus, tu entres véritablement dans ce qu'est la personne devant toi.
Oui, les pures d'oignons.
Les immenses, énormes et nombreuses pures d'oignons. Voilà. C'est un striptease.
Un striptease de l'âme, c'est bien.
Oui, c'est bien dit, ça. Oui.
Joseph, si on va à l'opposé, un mot que tu détestes?
Je dirais beaucoup intolérance, peut-être.
Oui.
Oui, je dirais intolérance, mais ça, c'est pour tout. Je ne parle pas juste des racisme, je parle de intolérance pour tout. Les gens qui sont braqués, c'est-à-dire qu'ils ont une vision du monde à partir de 15-16 ans, et ça reste comme ça jusqu'à leur mort.
Ouais.
Tu vois? Et dans la littérature québécoise, il y a un des grands chefs-d'œuvre de la littérature québécoise, c'est Félix-Antoine Savard, qui a écrit « Menot, maître draveur ». Et dans son livre, qui était d'ailleurs récompensé par l'Académie française, il dit un modèle à sa fille, parce que Menot, c'est quelqu'un qui veut toujours aller plus loin, voyager, passer par-dessus les montagnes, aller partout, découvrir, donc très curieux. Oui. Il dit à sa fille, en mangeant un midi, sa fille qui est devant lui, Marie, il lui dit, moi, j'envie malgré tout la personne qui ne va pas plus loin que le bout de son champ et qui meurt dans son lit. C'est, je pense que ça synthétise beaucoup quand je te dis que j'exprime que la curiosité, c'est ce qui te rend plus vivant.
Oui, puis, mais il dit qu'il a envie la personne qui ne va pas plus loin que son.
Ben, malgré tout, parce que c'est moins compliqué.
Oui.
Parce que lui, c'est compliqué.
Oui.
Tu comprends? Oui, mais je mets tes raquettes.
Si je le ramène, puis c'est drôle parce que tu sais, je ne veux pas ramener tout à moi, mais tu sais, de le voir comme quand je suis parti de Saint-Hyacinthe, j'avais une connaissance tu sais, de chez nous, puis sans dire ah, c'est les régions, puis tout ça, j'étais en banlieue de Saint-Hyacinthe, je n'ai pas grandi sur une ferme. Puis... Mais quand je suis arrivé à Montréal, c'est la première fois de ma vie, tu sais. Toutes les différences culturelles, là, tu sais, j'étais arrivé, j'avais jamais vu de ma vie juif et juive. J'avais des Arabes dans mes cours, j'étais à McGill en plus. Fait que c'est un milieu en anglais, ça venait de partout dans le monde. Puis c'est là que je me suis vraiment ouvert mes horizons parce qu'à Saint-Hyacinthe, sans blague, on était tous des petits blancs privilégiés pareils. Tu sais, à l'école, il n'y a pas beaucoup de diversité, là, ni culturelle, ni sexuelle, ni corporelle. Là, tu sais, c'était comme, on était pas mal tous pareils. J'ai l'impression que j'ai découvert ça sur le tard, mais. Oui, c'est le fun d'aller plus loin que le bout de son nez. Même si j'ai un bon bout de nez, là, tu sais, c'est quand même c'est bon d'aller plus loin que ça.
Mais c'est exactement ce que qu'il voulait dire Menot. Aller plus loin que le bout de son nez.
Oui. Le champ de vision ou le champ de.
Mais cette recherche-là de l'autre, des autres choses, le monde, en fait, c'est aussi difficile à vivre plus que de rester dans ses convictions et que ça ne bouge pas. Alors, c'est la même chose en politique, en idéologie. Si tu écoutes toujours les mêmes personnes qui crient à gauche, à droite, au centre, peu importe, dans les deux extrêmes, c'est pas vivable.
Ouais.
Et c'est très peu raisonnable, et c'est très peu respectable. Et ensuite, on se dirige vers le centre, où il y a une pensée, il y a un discours, où on est pour le débat, où on est pour les discussions. C'est ce qui fait encore, c'est ce qui rend encore la vie viable. Quand on peut discuter. Le jour où on ne peut plus discuter, le jour où on ne peut plus accepter que l'autre ne pense pas comme toi, ça devient ce qu'on appelle la tolérance. C'est ça que je veux dire par la tolérance.
Je le savais. Quand j'ai créé ce balado-là, je le savais, je me disais... Puis en plus, les gens ne savent peut-être pas, mais nous, on est dans la même boîte de gérance, agence, tu sais. Fait que je me disais, Joseph, ça va être tellement intéressant, genre avec tout ce qui est langue française, tout ce qui est les mots, je savais que ça allait être pertinent, fait que je suis vraiment content. Pour ceux avec la prochaine... Vas-y, Joseph.
Vas-y.
La prochaine question, je l'ai changée, en fait, parce que à la base, c'était votre drogue favorite. Qui peut, sans être être obligé, obligatoirement une drogue, mais j'ai changé pour votre dépendance favorite. Y a-t-il quelque chose dont tu es dépendant?
À part la sexualité, je dirais ben non. Non. Dépendant, ça ne peut pas être une dépendance, mais disons un amour inconsidéré un peu.
Oui.
Les bons repas, le vin.
Oui.
Et les discussions entre amis.
Quel est le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre?
Son ou le bruit? Bon, ça, c'est une question. Oh, c'est quelque chose, là. Le son, un son ou un bruit, c'est pas pareil, évidemment. Un son, c'est un son. Ben, moi, c'est, je dirais la musique, c'est sûr que c'est la musique. C'est
quel type de musique?
Musique classique.
Oui.
Ou la musique contemporaine.
Parfait. Mais on va encore resserrer l'entonnoir, là. Musique classique, tu as un choix. Ça, qui est-ce qu'on écoute? Quelqu'un qui veut commencer à écouter le classique, là, il veut s'initier, là, tu dis, commence avec ça.
Ben, c'est impossible de trouver quelque chose qui va pouvoir initier quelqu'un. Moi, je l'ai fait avec un ami qui était à mon chalet à Sutton,
oui,
l'hiver. Puis il me dit, ben, mets-moi ta musique, j'aime écouter une musique comme ça. Alors, j'ai mis un extrait d'un opéra de Wagner, parce que j'avais le disque, c'était des disques à l'époque.
Oui.
J'ai mis un disque, un extrait, parce que ça dure, c'est long. Puis il était, quand j'ai terminé, il était complètement transfiguré. Il ne parlait plus. J'ai dit, mon Dieu, c'était atroce pour lui. Il n'y a pas du tout. Et il fait... Il dit, je ne savais pas que c'était ça. Ben, wow. J'ai dit, ça, c'est ça quoi? Alors, je dis, je suis complètement... Il n'était pas capable de dire, je suis bouleversé, mais c'était le cas, il était bouleversé.
Oui. Il était sans mots.
Ben, ou C-E-N-T. Mais j'aurais pu mettre du Bach, tu sais... Mais quand je dis musique contemporaine, moi, c'est de la musique, même au conservatoire de musique, quand j'écoutais dans la salle d'écoute la musique, pas la musique électronique, mais la musique contemporaine,
oui,
les autres élèves disaient « Ah, t'écoutes ça? » Ben oui, moi, j'adore ça. Mm-hmm. Voyons donc, Stockhausen, Boulez, etc., etc. Pour moi, c'était de la grande, grande musique et tout le début du 20e, fin 19e, début du 20e, avec Schoenberg, Webern, etc., etc., la grande école allemande de musique contemporaine, moderne, pour moi, c'est extraordinaire de construction. En fait, ça correspond à ce que je suis. J'aime tout ce qui est comme une construction de l'idée, une construction d'une vision du monde, une construction, c'est pour ça que j'aime l'architecture.
Oui.
J'ai d'ailleurs eu un ami très longtemps, peut-être plus qu'un ami, enfin, il était architecte aussi, il avait deux doctorats, dont un doctorat en architecture, et il m'a beaucoup, beaucoup initié parce que j'aimais l'architecture. Il m'a fait comprendre beaucoup de choses, tout ça, il faut être architecte pour comprendre les règles, bon,
oui,
etc. Mais moi, admirer l'architecture, c'est extraordinaire. C'est admirer les cathédrales, c'est extraordinaire. Admirer la musique Guggenheim, c'est extraordinaire de beauté, parce qu'il y a un mouvement. L'architecture, c'est un mouvement.
Oui.
Pour moi, c'est un mouvement, comme les cathédrales du Moyen-Âge, c'est un mouvement vers le haut, à cause de l'aspiration vers les catholiques, vers Dieu, ce qui n'était pas, oui, mon cas, là. Mais pour la beauté de la chose, c'est très, très beau, c'est bouleversant. Et ça a pris un siècle à construire, etc., etc. Alors, c'est un ensemble de monde ils se sont réunis, ils ont travaillé, il y a eu des morts, c'était très compliqué. Il n'y avait pas de règlement pour protéger les constructeurs. Mais tout le monde participait à la construction d'une église au Moyen-Âge, tout le monde participait comme à une messe.
Oui.
Tout le monde qui travaillait était considéré comme quelqu'un qui est là pour monter vers Dieu dans son aspiration du peuple, etc., etc. Bon, c'est ce que je veux dire. On sait que c'est l'opium du peuple,
mais
malgré tout.
Il y avait une grosse portion en ostéopathie où est-ce que j'ai beaucoup aimé quand ils ont comparé beaucoup l'architecture au corps humain parce qu'ils ont dit qu'il y a, ouais, beaucoup de choses de l'architecture qui a été fait selon l'humain, tu sais, ils font les arches de pied, après ça, faire les arches d'une église, puis comment ça tenait. Puis ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'il expliquait les mortaises et les tenons, là, tu sais, le bois qui rentre. Puis c'est exactement comment la cheville est constituée. Tu arrives les deux malléoles, le tibia avec le péroné, et puis là, ça s'installe sur le talus, là, qui est comme l'os de la cheville. Puis, ah, c'est donc bien le fun de voir ça, ce qui est reproduit là. C'est, tu dissèques un corps humain, puis tu vois la même chose. T'sais. On n'est pas allé plus loin que ce que. Mais on est allé plus loin, là, je veux dire, mais ça parle quand même de nous.
Un peu comme on a, encore il y a très longtemps encore, on admirait l'homme et la femme. Pour la construction, c'est la conception de l'homme et la femme, la beauté, Adam et Ève, même si on sait que ça existait, hein, mais c'est une histoire, mais enfin, tu comprends? Ouais. C'est comme, c'est ça, c'est une aspiration à la beauté.
Puis je suis allé, c'était avant la pandémie, en Italie, puis à Florence, c'était magnifique, là, tu sais, puis c'est même là, moi aussi, je suis pas religieux, mais tu sais, j'aimais aller visiter les églises, les cathédrales, puis voir, puis... Il y en avait une, verte et blanche, puis on avait un guide, puis il nous expliquait, il y a encore à ce jour des écoles d'architecture qui ne comprennent pas comment le toit a pu être fait, puis aussi solide, puis que ça tienne depuis tant d'années. Puis même avec leur programme informatique, ils ne comprennent pas les calculs qui ont été faits pour que ça soit fait.
Ouais.
Puis tout est comme, tout est, je vais dire d'équerre, là, mais tout est égal, tout est droit, tout est parfait. Bref, c'est magnifique. Fait que...
À Florence, es-tu allé au musée des offices?
Je pense.
C'est là où il y a les esclaves de Michel-Ange. Quand on arrive, les immenses statues, ouais, c'est extraordinairement beau. Et le baptistère aussi à Florence. C'est architecture absolument, une beauté vraiment, il n'y a pas de mots, je pense, c'est indicible.
Ouais.
Ouais.
Mais j'ai vu de magnifiques choses, mais j'ai pas retenu le. Mais peut-être, tu sais, puis ma copine du passé était très, très, très fan là, de musée. Fait que tu sais, j'ai visité plein de choses. Mais j'ai pas de mémoire des noms, mais si on y retournait, Joseph disait ça, je fais oui, ça, j'ai déjà vu ça, ça, je suis passé. Ouais.
Mais en fait, l'idéal de construire une cathédrale tout en hauteur vers Dieu.
Oui.
Et qui, à la longue, va tomber un peu en ruine tranquillement, c'est à l'image, si on peut, là, si on veut extrapoler, là. C'est à l'image de l'homme. On vieillit, puis on devient un beau jeune homme ou une belle jeune femme, et tranquillement, cet édifice se
dépérit.
Regarde-moi, ça dépérit. Voilà.
Joseph, on va encore une fois à l'opposé. Son ou bruit que tu détestes entendre?
Quelqu'un qui me parle, parce que ça m'est arrivé, quelqu'un qui parle au téléphone en mangeant.
Il n'y a pas rien qui presse en ce moment. Si, tu sais, mange, là, puis ça vient de depuis que je suis tout petit. Moi, ça vient de... Ouais. Chez nous, c'était bien important de pas de son. Puis j'ai un frère qui est sourd, puis mes parents ont tellement travaillé fort pour pas l'entendre saper puis respirer fort en mangeant que je pense que j'ai développé ça. Fait que moi, quelqu'un parle, puis mon père a toujours dit... Finis ta bouchée, là, tu parleras après. Ça c'est aussi, ça. Là, tu ne parles pas à bouche pleine, tu ne parles pas en mangeant.
Mais il y a aussi que le son, en fait, je pourrais dire globalement, je suis allergique au bruit. Je suis allergique au bruit, carrément. Je suis presque intolérant. Là-dessus, c'est mon intolérance.
Oui. Joseph, la prochaine question, c'est une question que j'affectionne particulièrement. C'est une de mes préférées. Est-ce que tu te rappelles de ton premier deuil?
Absolument. Absolument, ça a complètement bouleversé encore aujourd'hui ma vie. C'est la mort de mon père. Et veux-tu que je te raconte juste...
Ben oui, mais est-ce que tu sais, quand parce que c'est ton premier deuil, est-ce que c'est arrivé lorsque tu étais jeune?
Ben, j'avais 9 ans.
OK, je savais pas ça.
J'étais quand même très, très éveillé à l'époque. Et puis mon père est parti avec... mon père est parti en ambulance. Ma mère est allée le rejoindre le matin parce qu'il est mort 2 heures après. Est allé le rejoindre avec un de mes oncles. Alors, moi, je suis sur la rue et je cours derrière la voiture en hurlant. Je voulais monter dans la voiture pour aller voir mon père. Et un ciel de novembre, blanc. Et c'est l'image qui m'a le plus bouleversé dans toute ma vie. C'est vraiment une image que je suis capable de me débarrasser de cette image-là. Et j'ai senti que j'étais abandonné. Toujours, carrément. Et ça a été l'effort ultime toute ma vie de me d'éloigner cette image. C'est comme dans un film, la voiture noire, les voitures des années 50.
Oui. Hein?
J'avais 9 ans, donc je suis né en 44, fais le calcul. Et la télévision n'était même pas arrivée encore à Chicoutimi. Bon. Et c'est un film en noir et blanc. Il n'y avait pas de couleur que je, dans mon souvenir.
Souvenir?
Voilà.
Non. Non, mais merci du partage, Joseph. Mais c'est vrai que quand ça arrive très jeune aussi, c'est très marquant. Je ne savais pas. Mais mes sympathies très en retard, mais n'empêche, merci de ton partage. Joseph, oh, celle-là, j'avais hâte à cette question-là. Ouais.
Vas-y.
Quel est votre blasphème ou gros mot préféré?
Mais j'en ai pas. moi, je dis beaucoup merde.
Oui, ben merde, c'est un bon blasphème.
Oui,
bon. Oui, ça compte.
Très rarement, fâché. Je pense que je ne sacre pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis même pas catholique.
C'est bien correct. Je sais que conseil humoristique, tu m'avais déjà dit. C'est correct d'avoir quelques blasphèmes ou sacres, mais tu sais, il faut qu'ils soient calculés pour qu'il y ait un impact et non pas une béquille verbale pour que ça dilue tout ton texte.
Ben oui, mais il y a aussi que, à force de sacrer dans ton spectacle, quand le bon sacre,
oui.
qui est essentiel à être là presque, d'être oui. là, il n'y a plus de valeur puisque tous les autres l'ont. Tu vois pas, il est rendu centre, ouais. C'est rendu normal. Ouais. Alors que s'il y a 3-5 dans un show, les trois vont avoir un effet très ouais. fort, ouais. surtout le troisième, la règle de ouais. trois. Bon. Ouais. Mais si tu en as 143, d'être appuyé qui est important. C'est une béquille, ouais. comme tu dis.
Bien d'accord avec ça. Joseph.
Oh. Oui.
Demain matin, on te remet la décision, c'est toi qui choisis. Quel homme ou quelle femme tu décides de mettre sur le prochain billet de banque qu'on imprime?
Ben, faut quand même que je pense au départ que ça se fait à Ottawa, ça se fait pas au Québec. J'ai pas le choix, tu aurais dit René Lévesque. Ça, t'as bien compris. Quel homme... Moi, je dirais quand même, je dirais Félix Leclerc. Oui, c'est sûr. À cause de ce qu'il a chanté, à cause de ce qu'il a dit, à cause de son combat.
Oui.
Voilà.
Très bon choix. Et je rajoute ça maintenant. Est-ce qu'il y a une citation que tu mets en dessous du billet?
Ben moi, je mettrais carrément, je me souviens.
Oui.
Parfait. C'est bon, non? Oui.
Oui.
Non, je pars le concours.
Oui, ça passe très bien. Non, mais c'est super. Joseph, est-ce qu'il y a un métier que tu sais que tu aurais détesté faire?
Est-ce qu'il y a un métier que j'aurais détesté faire? Ben, je dirais peut-être curé. Oui, je dirais curé à cause de l'insistance de convaincre les gens du prosélytisme qu'on dit. Oui. Alors, c'est ça, peut-être. Même si je respecte les vieux curés de campagne.
Oui.
Mais je comprends tout ça. J'ai vécu par je l'ai vécu aussi, mais autrement, pour moi, c'est ça.
Moi, j'ai voulu, là, jeune, devenir curé en plus. Là, on m'avait inculqué ça, là. Puis ça a rapidement changé, mais oui, je peux comprendre. Si la réincarnation existe, que tu y crois ou non, on se prête au jeu, en quoi tu aimerais revenir?
Ben, j'aimerais revenir en Joseph Saint-Gelais pour continuer. T'es content?
Mais ça me va. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein?
Moi, ben non, c'est clair. Hein? Ouais, ouais. C'est ma réponse.
Oui? Voilà. T'aimerais revenir en Joseph Saint-Gelais, recommencer en Joseph Saint-Gelais?
Non,
ou...
continuer oui. pour essayer d'améliorer l'ancien.
Oui.
Là, je deviens moderne, tu comprends? C'est oui, ça. Oui. Mais je crois que c'est... Oui.
C'est bien ça, Joseph. Encore une fois, qu'on y croit ou non, après ta mort, tu arrives aux portes du paradis, Saint-Pierre est là. Qu'est-ce que t'aimerais qu'ils te disent à ton arrivée?
Ah, oh, qu'ils me disent « Sorry, I don't speak French.
» Et tout ce temps-là, t'as misé sur le français.
Voilà, t'as tout compris.
Mais est-ce que tu veux qu'ils disent quelque chose par rapport à ta vie? Mettons même si que tu y crois ou pas, là.
Par rapport à ma vie?
Ouais.
Ben, vous vous êtes bien battu, monsieur, pour vivre. Ouais. Bon, ça sera un compliment, dans le fond, oui. C'est ça, pour moi.
Bien joué. Joseph, on arrive à un moment, encore une fois, que j'aime beaucoup.
Oui.
La question de ma mère.
Oui.
Manon Pinault a toujours une question. La question est la suivante. Joseph Saint-Gelais, est-ce que l'humour a changé pour le mieux depuis 10 ans?
C'est pas possible de dire oui ou non. Parce que c'est un chemin, parce qu'il y a des premiers, il y en a eu des très bons, oui. Puis il y en a eu des moins bons, et actuellement, il y en a des très bons, puis il y en a des moins bons. Donc, et c'est une évolution.
Oui, c'est une bonne réponse. Et ma mère a surenchéri, puis je la trouve piquée quand même cette question-là, mais je la pose quand même, parce que ça va peut-être venir à la discussion. Elle dit, pour un Louis-José Houd, combien devrait envisager une autre carrière?
Encore une fois, c'est un jugement. C'est des jugements, j'aime pas trop.
Ouais.
On a le droit de vouloir faire de l'humour, même si c'est pas bon. La vie va faire que tu vas comprendre toi, par toi-même que ça ouais. marche pas. Moi, je crois que c'est plutôt ça, mais la question est très, très bonne. Mais la personne qui s'essouffle à faire de l'humour, puis ça marche pas, mais c'est parce qu'il y a une raison.
Ouais.
Ou il y a deux raisons. Ou parce que c'est mauvais et ça atteint personne, ou parce que c'est trop hermétique, comme l'absurde, c'est dangereux. On le sait tous, tous les humoristes le savent. On sait tous que c'est très pointu, c'est délicat, on ne sait pas trop. Il y a des gens qui ne comprennent pas du tout l'humour. L'humour, je parle l'humour absurde.
Oui, alors, le second degré, ces choses-là, il y en a qui...
Le second, le troisième et le 16e degré presque par moment.
Oui. Oui.
Et ça fait un temps, on a des exemples qu'on nommera pas, ça fait un temps, parce que le premier show, le premier spectacle, il y avait des numéros absurdes, mais ça marchait, c'était drôle, c'était nouveau. Puis tout à coup,
ça marche plus. Moi j'adore l'humour absurde parce que c'est pas un humour que je suis capable de maîtriser ou de faire. Fait que j'aime ça en consommer, mais je comprends que c'est vraiment niché. T'sais, après ça, j'ai l'impression que c'est plus dur. Je suis sûr que c'est plus dur d'écrire des spectacles d'humour absurde que de faire des spectacles. T'sais, comme moi, je raconte des anecdotes dans ma journée, mais de l'absurde, j'ai l'impression que c'est beaucoup de niveaux là, à penser et à écrire, puis faire un long spectacle, puis une mise en scène, puis ça doit être extrêmement compliqué. Mais t'sais, j'admire ça.
Oui, mais c'est une construction qui est très, très, très compliquée. Alors, on peut se poser la question sans avoir une réponse définitive. Oui. On peut se poser la question, c'est compliqué. Tu pourrais peut-être rendre les choses un peu moins compliquées, parler plus directement au public, et le public serait content. Oui. Parce que l'humour, qu'on le veuille ou non, là, c'est une vérité physique. Tu as quelqu'un sur scène qui parle des gens assis. Le contraire du théâtre, il y a un quatrième mur. Il y a tous les arts de spectacle, oui. Tous les genres, tous les styles. Vous êtes les seuls à parler directement aux gens dans la salle. Et comme les relations humaines sont de moins en moins, existent de moins en moins avec une certaine chaleur, le public s'est rendu un des derniers refuges où le public, il y a quelqu'un qui est devant eux et qui les fait rire. Et par ses observations, etc., etc. Et ça, c'est une richesse.
Ouais.
Alors, moi, le vieux monsieur Saint-Gelais, je me dis quand même que ce qui est important, c'est que ton message se rende. Il y a deux sortes d'humour, dans le fond. Il y a l'humour où les gens comprennent, les gens du plaisir, ils sont contents, ils se retrouvent, etc., ou ils retrouvent un voisin, etc. Et il y a l'humour où on faut dire, c'était un peu compliqué, mais finalement, c'est bon quand même, c'est difficile. C'est ça. Hein? Il n'y a pas de choisir.
Oui, je comprends. Joseph, je vais enlever la question. Ma mère te remercie pour ta réponse.
Oui, moi, je t'en remercie.
Ce que tu as dit aussi qui m'a fait résonner, puis tu sais, je m'en suis rendu compte beaucoup, tu sais, là, ça fait 3 ans qu'on roule en salle avec le spectacle, mais tu sais, tout le cheminement dans les bars, tu sais, j'ai eu beaucoup, là, moi, le message « Ah, Guillaume, c'est un travaillant », tu sais, où je reviens, j'écoute mon audio. Mais je le voyais du monde qui font un spectacle. Là, t'es là, tu sais, t'es sur le même spectacle ce soir-là. J'étais assis dans le bar, puis là, je fais « Mon Dieu, mais je pense qu'il s'est planté. » Puis là, il sort de scène, je fais « Puis il fait « Ah, ça a bien été, Caroline. » Puis là, je fais « Mais c'est-tu l'orgueil? C'est-tu un manque d'introspection? Ou vraiment, lui, dans sa place, ça, tu fais « Là, ça fait 10 ans que tu fais ça, puis il me semble, tu... » Parce que je peux pas, tu sais, je sais que j'ai déjà vu un juge en route faire à une audition, enfin, ça fait 4 ans que tu viens aux auditions, ça fait 4 ans qu'on ne te prend pas. Je pense qu'il faut vraiment que tu changes d'idée. Puis j'ai fait comme, oh mon Dieu, on dirait que tu peux pas dire ça à quelqu'un.
Ben oui, on peut dire ça à quelqu'un. Il y a un concours, c'est ça aussi, quand
ouais,
même.
Ouais, ouais.
Il faut une réponse. Et ouais. La personne, comme tu dis, c'est très généralisé, cette réaction-là. Le gars ou la fille qui sort de scène dans un bar, ben, ça a marché, c'est extraordinaire. Moi, j'en ai vu aussi, puis ça n'avait pas vraiment marché.
Ouais.
Mais c'est là où on pourrait tomber dans des discussions beaucoup plus même un peu méchantes, mais je dirais aussi réalistes. On n'a pas tous le même quotient intellectuel en partant.
Ouais.
Et ce n'est pas un jugement de valeur que je fais, c'est une réalité. Mm-hmm. Et on a aussi, selon le tempérament, on n'a pas le sens totalement de la réalité. Et on n'est tellement pas... Il y a des gens qui sont tellement sûrs d'eux, et on en connaît dans le milieu de l'humour, j'en ai connu, ils sont tellement sûrs d'eux que de toutes les façons, ils sont sûrs que c'est toujours extraordinaire. Finalement, j'en ai connu, j'en ai vu, j'en ai entendu, qui, ça n'a jamais abouti, c'est le mot du cas de le dire, sur un spectacle. Ou quand ils ont essayé de faire un spectacle, oups, ça n'a pas marché beaucoup.
Mais oui.
Ce qui me fait de la peine, par contre, étant donné que j'ai suivi beaucoup tous les genres de concours, et j'ai été jury pour le ministère des Affaires culturelles à l'époque, ça s'appelait comme ça, pour la littérature, pour le théâtre, j'étais jury pour les troupes institutionnelles, j'en ai fait des concours, et j'ai suivi beaucoup des concours internationaux, comme le grand concours de piano de Montréal, à tous les 3 ans, pendant 3 ans. Il arrête à la 4e année, ça reprend après. Piano, violon, chant. Classique, ouais. Bien sûr. Je suivais le concours au complet. Et il y en a, comme encore une fois, tu te dis, mais ils ne feront jamais carrière, c'est impossible. Non? Mais les jurys sont très sévères. Mais alors, sévères, ça ne se peut pas. Et c'est ça, il faut qu'ils réalisent. C'est une petite voix, s'ils n'ont pas de présence. Ce qui fait la qualité d'un humoriste en partant. Yo, écoute-moi, c'est la présence.
Ouais.
C'est la présence. Et on regarde un peu la télévision des fois, et là, je me dis, OK, lui, là, ou elle, boum, hein? Je m'appelle Alexandre, c'est écrit Morancy.
Ouais.
La première fois que j'ai joué Morancy, je disais, elle lirait le bottin téléphonique, on rirait.
Tu comprends? Ouais. Bon, ouais.
À partir de là, il faut travailler, il faut arriver avec des choses drôles et intelligentes, bien sûr.
Ouais.
Mais il y a des gens, c'est ça. Si tu as ça en partant, ça va marcher pour moi. Paye en méthode. Es-tu d'accord ou non avec le genre d'humour?
Ouais.
C'est pour ça que ça fonctionne. C'est l'être humain en premier qui fonctionne. Et moi, rappelle-toi, on a travaillé un peu ensemble.
Ouais.
Et moi, j'ai toujours dit la même chose. On radote les metteurs en scène parfois, je l'assume, mais je crois avoir raison. L'humoriste en scène, c'est le cousin qui te fait rire à Noël, au réveillon. Et si tu n'as pas ça, il y a des chances que ça ne marche pas fort.
Je suis d'accord.
Je vois ça pour donner des noms. Là.
Non, mais c'est bien.
Excuse-moi.
C'est bien de se retenir aussi. Joseph, attends un petit peu, là, je vais passer à l'autre question. Ah, c'est des questions rafales, Joseph.
OK, vas-y.
Je te donne 2 choix. C'est pour t'amener à faire un débat interne avec toi-même, mais tu peux expliquer les deux, mais garde, on part avec le premier.
Okay.
Conservatoire d'art dramatique ou conservatoire de musique?
Je peux pas dire les deux. J'ai fait les deux en partie.
Je sais, c'est pour ça que je te demande lequel des deux t'aimes le plus.
Ah, c'est le conservatoire de musique, oui.
Oui?
Oui.
Parce que tu as fait conservatoire de musique puis école supérieure de musique. Il y a comme...
Écoute, j'ai fait le conservatoire de musique à Québec. J'ai fait le conservatoire de musique à Montréal. J'ai fait le conservatoire d'art dramatique à Montréal. Et j'ai fait l'école supérieure de musique Vincent Dindy, qui est devenue maintenant la faculté de musique de l'Université de Montréal.
Ouais.
Ça donne une idée au niveau du CV.
Oui.
Là.
Oui.
Puis il y a des places où j'ai été renvoyé parce que je travaillais mal, j'avais trop de parties. Bon, c'est la vie. Hein. Bon, c'est comme ça. J'étais très, 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 très olé-olé.
Ouais.
Et tout le monde à l'époque était très olé-olé, pour pas te dire. Bon, les filles lançaient leur sacoche sur la scène. C'était des énormes tempéraments. Mais moi, c'est ça jouer. C'est ça faire du théâtre. C'est avoir une personnalité. Moi, je pense à Coluche.
Oui.
Coluche, que tout le monde aimait. Malheureusement, il est décédé. Coluche qui font des Restos du cœur. Coluche qui a écrit des choses merveilleuses. Et c'est ça des humoristes, Ben, ici, les gens vont dire « Coluche, c'est un Français, c'est pas bon ». Ben non, il est plus que bon. Mais oui. C'est un être humain comique.
Voilà. L'humain avant l'humoriste, ça, c'est, je suis 100% d'accord. Ouais. C'est ce que les gens voient en premier, embarquer l'humain sur scène.
Toujours.
Avant que les mots sortent, là. Oh, le lac des cygnes ou Casse-Noisette?
Le lac des cygnes. Pourquoi tu as une question? Oui!
Mais c'est parce que au début, j'avais écrit le lac des cygnes en DVD ou la collection du lac des cygnes en DVD ou le lac des cygnes en vrai. Puis là, après ça, j'ai parlé avec Maxime, il disait « Ah, mets-les contre Casse-Noisette », mais ça n'a pas été un grand débat finalement.
Non. Ben, le lac des cygnes, j'ai 29 productions en DVD différentes.
Je sais.
Alors, ça te donne une idée. Mais oui. Il y a tout, comme toujours dans la vie, que tu parles de qualité de marteau ou de balai, il y a toujours, on fait toujours un concours en dedans de soi-même.
Oui.
La meilleure production des 29 balais, ben c'est presque toujours la même chorégraphie, c'est une chorégraphie historique, avec des remaniements des fois, c'est la production de l'Opéra de Paris. C'est ça. Ils vont très loin. Oh, c'est ça, je veux dire. À tous les niveaux.
Es-tu prêt pour la prochaine question, Joseph?
Absolument.
Aller à Charlevoix ou aller à Disney World?
Oh mon Dieu, c'est Charlevoix tout de suite. Je te ferai pas de discours sur le monde de Disney. Tu ne m'aimerais plus.
Ah, ça, c'est juste parce que je sais que tu détestes Disney World. Ça me fait rire.
Non, je déteste jamais. Je ne déteste pas. Je remets plutôt en question. Puis j'affirme ma préférence.
Oui.
Là,
oui.
Ça a beau exister. Moi, je n'irai pas mettre une bombe à Disney. Mais je dis, pourquoi amener un enfant à Disney? Amenez-le dans un musée.
Oui.
Amenez-le dans un concert. Amenez-le. C'est ça, les choses, les belles choses. Mais pas des personnages de souris.
On l'amène où à Charlevoix, cet enfant-là?
Et j'adore les dessins animés. Et les meilleurs au monde, c'est les dessins animés tchécoslovaques.
Oui.
Mais oui, je te jure. C'est le plus beau, le plus extraordinaire, par la naïveté, par la beauté. C'est ça qui est très, très beau. Mais là, pas des souris biquées. Non, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Mais c'est à l'image de toute la planète en ce moment.
Si on amène un enfant à Charlevoix, on l'amène voir quoi?
Si on amène un enfant à Charlevoix, on l'amène voir les montagnes. Parce qu'il y a des endroits absolument fabuleux, c'est tellement beau. C'est beau. Oui. Ouais.
Le jeu de société Monopoly ou le jeu La Boulette?
Je ne connais pas La Boulette, mais je
oui,
j'aime
La Boulette, bien. Joseph, c'est les petits papiers qu'on écrase, puis c'est un mot dessus qu'on met, puis mime. Oui. On avait joué à ça là, à Noël. Là.
On s'en emploie pas ça, La Boulette, mais c'est pas grave. Là, je dirais La Boulette, là, forcément.
Ouais.
Vous auriez dû dire... Il y avait un jeu extraordinaire à l'époque. C'était, on jouait, on faisait des films. On avait des Oscars, puis on choisissait des vedettes. Puis des fois, c'était je ne me souviens plus comment ça s'appelait.
Oui.
Nous, on jouait à la campagne. On jouait avec des lunettes. On mettait des lunettes de soleil. On faisait des stars internationales. Je fais un film, c'est un triomphe. Je gagne un Oscar. Oh, c'est un navet, ça n'a pas marché du tout. Et on fait Movie Maker, ça s'appelait.
Wow!
Movie Maker. Excuse mon accent, je parle.
Non, c'est français. Parfait. Movie
Alors,
Maker.
Alors, imagine. Mais parce que là, nous, on joue en plus. On se déguisait presque autour de la table. Il faut dire qu'on avait fumé un peu. Là.
Ouais.
Et on jouait, effectivement. C'était merveilleux à jouer. Et puis, évidemment, le colonel Moustache, tout ça. Là, comment ça s'appelait?
Le Clou.
Le Clou, c'est ça.
Oui. Oui.
Là, je dirais, pour moi, c'est le jeu qu'on a aimé le plus. Oui.
Je comprends.
Oui.
Un kir royal ou du caviar?
Je veux dire le kir royal.
Oui.
C'est plus régulier que le caviar. J'en ai deux petits pots dans le frigo en ce moment, mais ce n'est pas le caviar à 900$ pour 40 grammes. Là. Ça serait exagéré, mais j'aime ça.
L'humour ou le théâtre? On est allé là, Joseph. On est allé.
Oui, je sais. je dirais... Mais je vais m'expliquer après. C'est sûr que je vais dire le théâtre. C'est sûr que je vais dire le théâtre. Parce que je suis dans les Grecs en ce moment. Je relis les grandes tragédies grecques qui datent de 3000 quelque chose.
Oui.
Enfin, moins 543 avant Jésus-Christ, ça fait longtemps.
Un petit bout.
Et qui perdurent d'ailleurs et qu'on joue encore. c'est à cause des sujets absolument... Il n'y a pas de mots pour dire... Édipe Roy, c'est impossible à trouver l'égal en écriture théâtrale. C'est impossible, presque. Et les Perses d'Échille. Les Perses, d'ailleurs, on peut voir une production française dans les années 50,
oui.
Dans un décor splendide, des Perses avec des masques, évidemment, ils ont tous des masques, comme ça se faisait. Et c'est absolument... Nous, on l'a vu très, très jeune, parce que ça avait été projeté en Eurovision.
Okay.
C'était la première fois qu'il y avait les Eurovision. Ils visaient toujours 100 millions de téléspectateurs. C'était en direct. Puis on l'avait vu, nous, on était très jeunes, on devait avoir 17-18 ans maximum, à Chicoutimi. Puis tous mes amis, on faisait du théâtre. Alors, on regardait ça. Et quand on s'est vu, on n'était plus capable de parler parce qu'on était tellement bouleversés par la qualité fabuleuse de la production et des acteurs et le texte, évidemment.
C'est ça qui est magnifique. C'est ce que je trouve beau quand tu regardes une œuvre, tu sais, le monde, je vais dire la civile, mais tu sais, le monde va voir un spectacle d'humour, ils vont faire « Ah, c'est drôle, c'est bien, ah, c'est le fun, les lumières. » Mais tu sais, toi, t'arrives, là, tu fais la production, l'éclairage, le texte, la script édite, tu sais, c'est comme une vision globale. C'est comme si tu avais une autre paire de lunettes que les gens n'ont pas quand tu vas voir un spectacle. Fait que ça, c'est... Quand tu dis qu'un spectacle est bon, généralement, c'est que tout l'ensemble du spectacle...
Ben moi, je fais le tour, ça, c'est normal, oui. C'est mon métier aussi.
Ben oui, ben oui, exactement. Ouais.
Oui.
La balade de Chalklin Tlikuk ou Madame de Sévigné.
Madame de Sévigné, c'est la plus difficile.
Oui.
C'est la plus difficile parce que c'est un monstre, Madame de Sévigné, au niveau de la langue française. Parce que c'est impossible, c'est presque impossible. C'est tellement incroyable la connaissance de la langue française et de la ponctuation.
C'est surtout la ponctuation. Moi, c'était pas. Je me rappelle de ces deux exercices-là. Puis Madame de Sévigné, là, c'est les points, puis les virgules, puis les. Parce que c'était une de mes grandes difficultés de prendre des pauses. Puis j'ai encore à ce jour, c'est une difficulté. Ouais. Mais oui, ça a été un exercice difficile.
Oui, la balade de Chalklin Tlikuk, oui.
Mais c'est ça, je l'ai regooglé tantôt. J'ai toujours dit la balade du grand Chalklin Tlikuk, mais c'est la balade de Chalklin Tlikuk.
Oui, c'est ça. J'ai un ami auteur qui a publié 11 volumes sur toutes sortes de l'histoire des discours de René Lévesque, des choses comme ça. Il est très habile à construire des phrases, à faire des textes. Et il avait créé une série d'exercices de diction.
Oui.
Il y en a un, je vais te le réciter parce qu'il est très court. À 16h16, avenue Thibault, sœur Saint-Assèze, sus sang et eau. Son jupon gît sous son grabat, elle fait orgie avec ses bas. Son souffle est court et ses seins secs, elle jouit d'amour d'une pine en tec.
J'aime bien, je vais la retenir. Ouais. Je vais dire aux gens s'ils veulent la pratiquer.
Moi, ce que j'aime, c'est la pine en tec.
Mais oui.
Ouais.
Mais il n'y a pas ça aussi, tec, dans le Chalklin Tlikuk, là?
Ah oui, bien sûr.
Les Antiques Incas, les Aztèques.
Oui, je ne sais plus, j'ai oublié, évidemment.
Oui.
Ouais, mais c'est tech, en
fait. Oui. Pastèque, c'était pastèque, avec ses pastèques.
Avec ses pastèques, mais masque de cassique sculpté en stuc. C'est ça? Pour Cliptothèque, autant du grand Chalklin Tlikuk. C'est ça, hein?
Oui.
Ouais. Ça me revient.
Oh, ça, c'est... On m'avait dit, fais pas ça, mais je vais quand même te mettre deux personnes, une contre l'autre.
D'accord.
Alors, Sylvie Potvin ou Jacques Chevalier, qui étaient les deux autres juges dans la route avec.
Oui, absolument. Mais j'ai beaucoup aimé les deux. Sylvie est tellement adorable. Je dirais Sylvie, puis je suis certain que par galanterie, ça existe encore.
Ça existe encore.
J'aimais aussi beaucoup Jacques Chevalier, qui est un garçon très sympathique.
Alors, c'est la dernière question des rafales. Après ça, on retourne sur la question traditionnelle. Soit que pour le restant de tes jours, tu dois manger du Kraft Dinner 3 fois par jour, ou soit pour que le restant de tes jours, la seule musique que tu peux consommer, c'est du rock and roll.
Je vais me contenter du Kraft. Parce que j'aime bien, moi, des fois, manger des... Ah oui, écoute, je suis quand même pas un snob, là, du tout. Ouais. Et justement, quelqu'un qui a pas confiance en lui, j'ai pas confiance en moi du tout, absolument pas. C'est pour ça que j'ai refusé beaucoup de choses dans ma vie, dont Béjart. Mais entre autres, on m'appelait pour faire la mise en scène d'une grosse affaire. J'ai dit non. On m'appelait pour remplacer un vieil acteur qui était trop vieux, puis il animait. En tout cas, c'est trop compliqué à raconter. J'ai dit non. Et puis, j'ai refusé beaucoup parce que je n'ai pas confiance en moi.
Mais ça, alors, ça tu dis ça, puis ça me touche vraiment beaucoup parce que c'est pas du tout ça que tu dégages, tu sais.
Ah ouais?
Si tu me dis, mais non, si on me disait Joseph Saint-Gelais, non, Joseph Saint-Gelais, il est assuré, puis regarde tout. Si on sort le CV, là, c'est juste.
Non, mais c'est un rôle.
Ouais,
mais. On joue tous un rôle.
Oui, oui.
À partir du moment où il y a des gens autour de toi, même ne serait-ce qu'une personne, on joue un rôle. Je joue le rôle d'un ami à un ami, d'un ami à un ami, etc., etc. Je joue le rôle du client, je joue. Etc. Enfin, c'est mon œuvre.
Oui. Mais en tout cas, Joseph, si c'est la première fois cette année que je faisais ça parce que justement, je suis pas la personne qui a le plus confiance en lui non plus. Puis est arrivé la fin de l'année, puis ça a été une dure fin d'année. Puis quelqu'un m'a dit fais donc juste un bilan de ton année. Là. Puis j'étais comme je l'ai fait parce que j'avais vraiment rien à faire le 31 au soir de décembre. Puis je me suis fait mon bilan, puis à un moment donné, j'ai fait j'ai fait ça. Ah ben cette année, j'ai réalisé ça. J'ai sorti un show. Tu fais comme, ça donne pas nécessairement confiance en soi, mais des fois, juste faire un pas de recul puis faire, voici ce que j'ai accompli ou regarder dans, tu sais. Fait que moi, je serais, ton CV, Joseph. En tout cas, il y aurait de la place pour la confiance en soi, je te le dis.
Oui, mais j'ai quand même fait comme tout le monde. J'ai fait des mauvais coups de mise en scène, comme tout le monde. Je suis capable de l'avouer, puis je le sais, je peux te dire, c'était l'œuvre, etc. Mais autrement... Depuis que je suis tout jeune, à cause de ce que j'ai raconté au début, le film en noir et blanc.
Ouais.
Les images, quand on est jeune, s'impriment terriblement. Et c'est bizarre parce que mon pharmacien, que j'ai eu pendant très longtemps, il a tout vendu, il m'avait dit, « Monsieur Saint-Gelais, ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. » Pas s'imprime au lac Saint-Jean. Là.
Non, dans la boîte crânienne.
Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est très vrai.
C'est vrai que même, oui, j'ai des images de choses, tu sais, parce que mon premier deuil, moi, c'est mon grand-père, là, j'avais 7 ans, puis je ne peux pas me rappeler de tout, mais j'ai des images claires de la journée des funérailles, telle place, tu sais. Moi, j'allais me cacher en dessous du, tu sais, c'était le cercueil ouvert. Puis en dessous, il y avait comme une couverture. Puis moi, j'étais allé me cacher en dessous dans une petite couverte. Puis j'étais caché là. Ça, j'ai un bon souvenir de ça, là, à être caché en dessous. Pas dans le cercueil, en dessous, là, vraiment.
Tu sais comment on appelle ça, le dessus qu'on met? Le cercueil dessus, là?
Non, le linceul, non, c'est pas ça.
Non, le linceul, c'est le linge dans lequel le cadavre est enveloppé.
Okay.
Ça s'appelle un poêle.
Un poêle? Ah, mais c'est bon.
Exactement comme un poêle à bois.
Ouais, ouais.
Parce que ça réchauffe. J'imagine, l'idée, et c'est ça. C'est étrange, hein? Ouais.
Je vais le retenir. D'ailleurs, j'ai toujours eu de la misère à dire un poêle, moi. Ça faisait partie de mes exercices, là. Friche d'air, père, mère, poêle. Ouais. Moi, j'ai toujours dit poêlon aussi. Ça a l'air que ça n'existe pas. Un poêlon, mais pas une poêlon.
Hey, c'est un néologisme. Tu as le droit de créer des mots, hein? Mais oui.
Joseph, c'est quoi ta plus grande peur ou phobie, s'il y en a une?
Moi, c'est les serpents.
Serpents?
Ouais.
Ça part
le mot. Quand j'étais jeune, le mot ou une photo, dans un livre, je lâchais le livre. Tellement c'était. Il y a une amie qui me dit « Oh, t'as des gros problèmes avec ta sexualité. » Oh, excuse-moi. Hein. Mais moi, les histoires de jouer au psychologue.
Les reptiliens, ouais.
Ouais, c'est ça.
Mais pourquoi les serpents, ça partait d'où?
Parce que quand j'étais jeune, que j'étais pensionnaire, il y a quelqu'un qui a couru dehors, qui courait après moi, avec une immense couleuvre. J'ai tellement eu peur, j'ai failli mourir. J'avais 12 ans, je pense. Ouais. Après ça, c'est bizarre, parce que lui est devenu pas le serpent, mais lui est devenu mon meilleur ami. Mais il m'aime beaucoup, j'ai joué un tour. Et moi, le tour, je n'ai pas pris du tout. Oui. Mais c'est ça. Alors, je suis resté avec cette image... C'est le seul animal. C'est pas pour rien que dans la Bible, c'est le qui tente Ève.
Oui.
C'est tout comme si ça t'enveloppe. Il y a des gens dans l'humanité qui sont comme des serpents.
Oui, des vipères même. Quand on...
Et des vipères, pour ne pas les nommer. On ne mettra pas de nom là-dessus.
Non plus.
Mais ça serait tentant, par contre.
Non, à huis clos, on fera ça. Joseph, qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas à ton pire ennemi?
Mourir d'une mort violente, je dirais, peut-être, oui.
C'est une très bonne réponse.
Parce qu'on voit ça beaucoup dans les faits divers.
Oui.
Et puis, c'est ça. Oui, c'est terrible, mourir comme ça.
Oui.
Un vieux monsieur de 82 ans qui se fait assassiner, tu fais, voilà, toute sa vie, et il finit avec des coups de marteau. C'est épouvantable.
Ah oui, non, ça n'a pas
si au moins il avait pris, je sais pas, tu sais, un bâton,
ben, ouais. Oui, c'est ça.
Ça aurait été plus long, mais oui. Ça aurait été bon, c'est ça.
Joseph, c'est quoi pour toi le bonheur parfait?
Ben, oh mon Dieu, là, je vais faire de la... Le bonheur parfait, pour moi, c'est... Attends que je fasse le ménage de mes idées, là. Le bonheur parfait, c'est une chose qu'on recherche, mais qui n'arrivera jamais. Pour moi, c'est ça, le bonheur parfait. Parce qu'on sait que ça n'arrivera jamais. Voilà. La philosophie.
Non, mais oui, mais dans mon cours de philosophie de cégep deuxième année, fallait faire une recherche, un sujet. Puis au début, j'étais parti sur la mort, puis j'étais « Ah, c'est bien trop... » Puis j'ai dit « Hey, je vais le faire sur le bonheur. » Puis je me rappelle, je sais pas qui avait dit ça, mais le bonheur, c'était comme juste un malheur moins malheureux. La poursuite du bonheur, c'est quelque chose qu'on n'atteint jamais. C'est comme un cercle qui tourne. Oui, ça, moi, mon bonheur, ça va être quand je vais avoir mon char de rêve. Puis une fois que tu l'as, tu sais que ben, je l'ai. Fait que là, qu'est-ce que j'ai? Ben, fait que tu es toujours en train de courir. C'est un cercle vicieux, le bonheur.
Oui, c'est une. Ben, en fait, on pourrait dire aussi, c'est une accumulation
de
désir, mais qui est jamais comblé, puis il va toujours en avoir un autre.
Oui.
Alors, même rendu à 80, tu as eu. Ta considération, qu'est-ce que c'est le bonheur, tous tes rêves ont été réalisés, et tout à coup, il y en a un autre qui arrive.
Ouais.
Tu vis plus longtemps, et tu meurs d'un accident de voiture le lendemain. Tu comprends? C'est...
Ok, voilà. Ben Joseph, on la transforme dans ce cas-là. C'est quoi, ça serait quoi pour toi une journée parfaite? Une journée... C'est ça aujourd'hui?
Ah, là, ce serait peut-être une... Ben, écoute, tu aurais d'autres façons... Très pragmatique, là, je dirais, où il n'y a pas eu trop de brouhaha, il n'y a pas eu trop de choses qui bougent trop vite, il n'y a pas eu trop de malheur dans le monde. Il y a une journée simple.
Oui,
parce qu'on ne peut pas demander plus.
Souper de vin.
Un souper parce que parfait.
OK, super. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire?
Oui, totalement. Tu veux que je le raconte?
Mais oui, je veux que tu me le racontes.
Ben oui, okay.
Je veux pas juste te dire, c'est pas okay, oui ou non.
OK. Je suis assis avec Michel Tremblay au théâtre Le Jésus, que tu connais.
Oui.
Devant, à l'époque, c'était la nouvelle compagnie théâtrale qui est devenue le Denis Pelletier dans Schlager. Mais à l'époque, ils jouaient là. C'était leur théâtre. Et il y avait un metteur en scène avait monté un Macbeth, c'est-à-dire Macbeth de Shakespeare. Oui. Et c'est ça.
Qui a une malédiction sur cette pièce-là?
Non.
Oui, apparemment que les acteurs qui font Macbeth ne peuvent pas dire les lignes de Macbeth dans le théâtre si ce n'est pas sur scène. Puis s'ils le disent, il faut. Il y a une espèce de malédiction avec le Macbeth.
Oh, mais tu sais, quand on parle de théâtre, il y a tellement d'histoires.
Oui.
Mais c'est intéressant ça aussi.
Oui.
Écoute, j'avais pris un cruchon au moins gros comme ça de champignon magique. Et là, j'étais assis à côté de Michel Tremblay, que je connais, mais on n'avait pas choisi, on n'était pas ensemble, mais qui était seul, j'étais seul. Bon, et moi, j'étais au bord de la rangée. Et à un moment donné, c'était extrêmement mauvais, je n'ai pas le choix de le dire, et la mise en scène. Et à un moment donné, Edgar Fruitier arrive dans le personnage que j'oublie avec la tête de Macbeth comme ça et Duncan, je ne sais plus, je ne me souviens plus d'histoire, mais ce n'est pas grave. Il arrive et tout le monde en scène a eu comme un fou rire. On l'a vu là, parce qu'il savait très bien que c'était mauvais.
Ouais.
Et là, j'ai ri comme quand tu es très stone et le champignon magique, c'est ce qui est magique, c'est que tu es joyeux.
Hein? Ben oui.
Alors là, ben, il y a un placier, on disait à l'époque, qui est venu m'avertir, si vous continuez de rire, monsieur, on va vous sortir. Mais moi, je continue de rire, puis je suis parti. Mais c'était, écoute, Gare Frutier, là, ses épaules sautaient comme ça, avec la tête.
Ben oui, il s'en rendait compte lui-même.
Ouais.
C'est bon. Joseph, ça a été, ben, ça se peut que ça retranche un peu ce qu'on a dit au début, mais selon toi, à ce jour, ça a été quoi ta plus grande épreuve?
À ce jour, ma plus grande épreuve, ben, pour moi, je reviendrai à celle de mon père en novembre, quand j'avais 9 ans.
Je peux comprendre. Des fois, ça se recoupe avec le premier deuil.
Ouais.
La prochaine question, je tiens toujours à rendre des honneurs à RuPaul, parce que je l'ai pris dans son émission. Mais si tu avais la chance de croiser le jeune Joseph, qu'est-ce que tu lui dirais?
Ben, j'aurais le même discours que je viens de tenir auprès de toi, dans le sens que je serais incapable d'intervenir dans ses décisions, mais je lui donnerais, je serais de bons conseils.
C'est bien.
Voilà. C'est bien. Est-ce que... Je laisserais faire sa vie.
C'est bon, ça.
Tiens, on devient ce que l'on est. Hein? C'est presque une vérité, finalement. On devient ce que l'on est.
Ah, c'est beau, ça.
C'est pas moi, hein, ce monsieur Apoki.
Non, mais c'est quand même, je trouve ça quand même, je vais le retenir.
Non, mais comme tout ce que je dis est beau, il fallait que je précise.
Il cite ses sources. Joseph, ça a été qui ou quoi ou quelle œuvre t'as découverte cette année? Y a-tu quelque chose que t'as découvert, tu fais, hey, ça, là, faut que les gens connaissent ça. Puis je dis cette année, on peut reculer de 365 jours, là, c'est pas obligé d'être dans l'année.
Oui, je comprends. Mon Dieu, je suis tellement... c'est difficile parce que j'ai eu moins d'activité parce qu'à cause de la pandémie, oui. D'abord. J'ai rien lu de ce qui sortait, sauf ton livre que je vais lire bientôt. J'ai apporté 10 livres que j'ai à lire. Et le tien est là-dedans. Qu'est-ce que... Ah, j'ai un livre que j'ai bien aimé. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est aucun rapport, mais je l'ai aimé à cause de du combat.
Oui.
C'est une sociologue et journaliste française qui n'est pas à droite ni à gauche et qui, je veux dire, l'extrême gauche.
Oui.
Et puis, alors, le livre s'appelle quelque chose comme Les Offensés.
Les Offensés, c'est bien.
J'ai adoré.
Gros livre.
Un tout petit livre comme ça.
OK.
Ouais, ouais. Et il me semble que c'est ça, les Offensés. La jeunesse offensée, je pensais. Voilà, il me semble.
On va regarder ça. C'est
vraiment intéressant.
C'est bien. Ben, hey, Joseph, je vais relancer. Je viens de terminer. J'ai lu Le vacarme des possibles de Valérie Chevalier. J'ai adoré ça. Puis je l'avais reçu sur le balado ici. Puis on avait parlé justement. J'étais en train d'écrire mon livre. Puis j'ai dit, je vais aller acheter ton livre, Valérie. Puis je l'ai lu. Puis c'est vraiment très bon. Fait que je le recommande également aux gens. Fait que la jeunesse offensée ou le vacarme des possibles, allez.
Ouais. Lire. Parce que...
c'est quoi le prochain livre, Joseph, que tu vas lire?
Ben, j'en ai 10 là à lire, justement.
C'est lequel?
Je les ai apportés. Ben, ça, c'est une relecture. C'est le Faust de Goethe. Là aussi, c'est une relecture et Homo de Nietzsche. J'ai le genre vu par un primatologue. J'ai... mon Dieu! Pays de connaissance. Et elle ne reviendra pas, Camille. J'ai Sapiens, une brève histoire de l'humanité. J'ai la fin de 2,5 livres de l'histoire de la création de la virilité, parce qu'on sait très bien que la virilité, ça n'existait pas avant. C'est une invention humaine. Et après ça, j'ai la bande dessinée de Sapiens et une autre encyclopédie sur le propre et le sale. Je suis incapable maintenant de lire, sauf ton livre, des romans.
Oui.
J'ai tellement lu que Proust, nomme-les, je les ai tous lus. Et les Russes, et les Italiens, et les Français, et les Américains en français.
Oui.
Edgar Poe, etc. Que je ne suis plus du tout dans l'action actuelle par rapport à la littérature. Et puis, moi, je trouve que c'est plus intéressant pour moi. De lire la liste que je viens de te donner.
Puis, En plus de ça, je me suis rendu compte, puis c'est des commentaires que j'avais reçus au début, parce que je rendais beaucoup les honneurs à Bernard Pivot, mais en fait, ces questions, c'est des questions de Proust. Ils ont pris à Marcel Proust. Mais merci pour ton partage de ta découverte de cette année. Et on termine là, le balado. C'est toujours une question de mon dernier invité. Donc, ma dernière invitée était Gabriel Caron. Mm-hmm. Et sa question est la suivante. Joseph Saint-Gelais, est-ce que tu te souviens de moi?
Ben, voyons donc. Moi, je la trouvais vraiment merveilleuse. Elle avait une espèce de, ce qu'on disait au début, spontanéité de présent, un rire merveilleux dont elle n'abusait pas, contrairement à certains humoristes qui rient à chaque gag. Oui. Elle, pas du tout. Et pour moi, c'était ça. Ça représentait ça et cette espèce de finesse, une finesse féminine d'observation. Oui, voilà. Alors, on va lui dire ça parce que c'est vraiment senti.
Je vais lui transmettre certains. Elle va sûrement l'écouter. Parce que oui, on a eu une super belle discussion. Puis on a parlé justement d'humour puis des difficultés. Puis elle m'expliquait, puis je ne le savais pas. Elle dit, tu sais, moi, Guillaume, j'ai jamais fait de gala. Elle m'a dit, j'accepte la couleur que j'ai puis l'humour que je fais. Puis ça m'a pris du temps en vieillissant. Puis quand je suis devenu maman, j'ai compris bien des choses. Mais ce qui m'a fait le plus de peine, c'est qu'elle m'a dit, la dernière audition que j'ai faite, ils m'ont dit, ah, t'es beige, tu sais. Dire t'es beige à quelqu'un, ça m'a comme... Fait que je suis vraiment content que t'aies dit, non, une belle finesse puis une belle plume.
Oui, ben c'est ça.
Radieuse, voilà. Fait que elle va être contente d'entendre ça. Et Joseph, c'est à ton tour maintenant de poser une question à ma prochaine invitée, qui sera Véronique Cloutier. Bon. Quelle est ta question pour Véronique Cloutier?
J'ai deux choix.
Parfait.
Le premier sur lequel j'ai travaillé, pas travaillé pendant 18 heures, mais au moins pendant 3 minutes.
Oui.
Et une autre que, plus classique, plus people, comme on dit. quand tu étais jeune, est-ce que tu rêvais d'être ce que tu es aujourd'hui?
Oui, bien joué.
Ouais. Bonne question. Mais moi, j'avais trouvé quelque chose de beaucoup plus à mon avis. C'est peut-être quétaine, je ne sais pas. Tu me le diras, sois franc. Quel est le lien entre votre prénom, Véronique, et la... Comment va-t-on? J'ai perdu le mot. Corrida. Et la corrida.
Oui. Ça, il faut qu'elle sache ça, là.
OK, bien, faut qu'elle fasse ses recherches, comme disent les complotistes.
Oui.
Ouais. Et ensuite, quel est le lien entre votre nom et un métier qui n'existe pratiquement plus?
Parfait. Je vais demander ça.
Mais veux-tu que je te donne la réponse?
Ben, j'aimerais ça que tu me donnes la réponse pour la corrida. Cloutier, j'imagine, c'est quelqu'un qui...
Vendait des clous.
Oui, oui.
Voilà.
Ça existe un petit peu moins.
Parce qu'en même temps, c'est une battante. Hein? C'est pour ça que j'avais venu comme ça. Et la corrida, c'est le linge avec lequel le toréador va affronter le tour. Ça s'appelle une Véronique.
Ah oui? Hey, là ça fait deux couvertures que j'apprends. Le poil puis la Véronique. Là. Ça, ben c'est voyons. Deux que j'ai appris aujourd'hui. C'est un balado sur les textiles.
Laquelle tu choisis?
Je vais prendre les deux, Joseph. Je vais te demander. J'ai rien à perdre.
Ben, c'est trois questions, en fait, ouais, c'est ça.
Ben oui, je vais demander quel est le lien entre Véronique et la corrida. Puis elle va me dire, je ne sais pas, je vais y expliquer. Puis peut-être qu'elle le sait déjà. Puis je vais demander, est-ce que tu connais le métier qui va avec ton nom? Puis je vais lui demander
Si
elle aspirait à devenir ce qu'elle est aujourd'hui.
Voilà. Ben, c'est intéressant quand même de savoir, mais c'est parce que ce genre de questions qu'on lui a déjà posées, c'est sûr. C'est une grosse vedette. Je veux dire, à un moment donné, on trouve des questions trop simplistes, trop évidentes, ça fait trop consensus et ça m'énerve parce que le consensus est rendu, comme disait mon ami Ronald, qui faisait des exercices d'articulation, Ronald, il disait le consensus et le qu'on s'en fiche. Bon, alors voilà.
Mais il y a pas, j'adore les questions des invités, puis tu sais, des fois, j'oublie de les aviser à l'avance, puis c'est sûr, ça arrive demain, comme ça, à brûle pour point à la fin, puis... Tu sais, l'autre fois, José Godet, j'avais oublié de dire, j'ai dit, c'est Gabriel Caron, tu sais, humoriste, tout ça, puis il a fait, est-ce qu'elle a une méthode de rangement pour son lave-vaisselle? Hey, on en a parlé pendant 15 minutes. Gabriel avait tellement une méthode, puis une technique, puis chaque étage, puis tu sais, ça m'a juste fait rire. Les questions, ça peut vraiment être n'importe quoi.
Oui, je comprends.
C'est des très bonnes questions.
Okay, ben, c'est très gentil de choisir les trois, parce que moi j'aime ça. Plus intéressant que les rêves que tu avais.
Mais oui, etc. Joseph, ben on a terminé. Fait que, je veux te remercier vraiment beaucoup de
ton
temps.
Je t'en prie, c'est moi. Moi aussi, je te retourne le remerciement.
Puis en fait, je vais pouvoir te demander aussi, parce que je termine toujours en disant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais plugger? Et je n'ai aucune idée comment le dire en français. As-tu des choses que tu aimerais mentionner avant de terminer?
Ouais, mon Dieu, non, ça va bien. C'est ça. Je suis très content d'être avec l'équipe de Maxime Lafleur, Maxime Gérance. Oui. Et puis, voilà.
Magnifique boîte. On a vraiment une belle équipe.
Une magnifique. Maxime est tellement présent à tous et à toutes. C'est extraordinaire, vraiment.
Je pense, Joseph, quelque chose qu'on a dit dans le balado, puis qui est vrai avec l'agence. Je ne sais pas pourquoi je dis l'agence, parce que c'est Maxime Gérance, là, mais c'est tous les artistes là-dedans, c'est l'humain avant l'artiste, je pense que
Maxime c'est a signé. C'est des grandes qualités de Maxime, justement.
Ouais.
Il en fait jamais assez. Voilà.
C'est super, Joseph. Merci vraiment beaucoup de ton temps. Je vais partir le générique, tu vas voir, ça part très raide. Fait que, fais pas le saut. Je te remercie de ton temps. On se revoit bientôt.
OK. À la prochaine.